France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Vladimir Poutine, favorable à une trêve en Ukraine, mais avec des nuances. Le président russe a enfin répondu à l'offre de cessez-le-feu négociée par les Américains. Le maître du Kremlin qui met beaucoup de conditions à l'arrêt des combats, alors que son armée progresse sur tout le front. En Allemagne, le Bundestag discute du bazooka d'investissement voulu par le vainqueur des élections Friedrich Merz. Il veut réarmer son pays en tournant le dos au dogme de l'orthodoxie budgétaire. François Bayrou, mis en demeure par 160 sénateurs. Il demande au Premier ministre de revoir la feuille de route énergétique du gouvernement. Le dossier de ce journal consacré au traitement médiatique des banlieues 20 ans après les émeutes de 2005. L'image des quartiers prioritaires dans les médias reste globalement négative, nous dira Fiona Mogadam. S'agit-il d'un tournant dans le conflit ukrainien? En tout cas, Vladimir Poutine se montre ouvert à la proposition de cesser le feu de 30 jours négocié entre l'Ukraine et les États-Unis. Mais le président russe a des réserves, ou plus exactement des nuances, pour reprendre ses mots. On écoute Vladimir Poutine qui s'exprimait tout à l'heure lors d'une conférence de presse avec son docile allié biélorusse Alexandre Loukachenko.
Cette trêve doit conduire à une paix à long terme et s'attaquer aux causes premières de cette crise. L'idée en soi est bonne et nous le soutenons totalement. Mais il y a des questions dont nous devons discuter. Je pense que nous devons en parler avec nos collègues et partenaires américains. Peut-être avoir au téléphone le président Trump et en discuter avec lui. Mais nous soutenons l'idée même de mettre fin à ce conflit par des moyens pacifiques.
Voilà, nous soutenons l'idée même de mettre fin à ce conflit, dit Vladimir Poutine. Propos qui doivent inciter à la plus grande prudence sur une fin rapide de la guerre en Ukraine. Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
Nous soutenons la proposition américaine, mais en quelques phrases, et sans vraiment le dire, Vladimir Poutine a repoussé, pour l'instant au moins, la proposition de trêve de 30 jours que les États-Unis lui demandaient d'accepter. Le président russe a posé de nombreuses conditions pour qu'il puisse agréer à cette interruption des hostilités, quand précisément les États-Unis lui demandaient de n'en poser aucune. Sur le fond, la position du Kremlin n'a pas changé d'un iota. Nous sommes d'accord pour arrêter les hostilités, mais à condition de trouver les conditions d'une paix durable, a dit Vladimir Poutine. En clair, le Kremlin s'accroche toujours à ce qu'il appelle le règlement des causes profondes du conflit. Il veut tout de suite mettre sur la table ses revendications, les territoires conquis, le statut de l'Ukraine, son gouvernement. Vladimir Poutine a par ailleurs rappelé que pour la Russie, une trêve permettrait surtout à l'armée ukrainienne de se repositionner alors qu'elle recule sur le terrain. Bref, en l'état, la Russie dit oui, mais non. En attendant le prochain coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine qui conditionne les prochaines étapes vers une trêve à l'assemblée de ses troupes dans la région russe de Koursk. Moscou a affirmé ce matin avoir repris la ville de Soudja, la principale conquête de l'armée ukrainienne, lors de son offensive éclair en août dernier. Les Ukrainiens qui ne contrôleraient plus que 5 localités en Russie. En Allemagne, le très probable futur chancelier Friedrich Merz appelle les députés à être au rendez-vous de l'histoire. Le chef conservateur demande au Bundestag un bazooka d'investissement, ce sont ses mots, pour réarmer le pays face à la menace russe. Pour y arriver, Friedrich Merz remet en cause le dogme allemand de l'orthodoxie budgétaire. On retrouve à Berlin notre correspondant Sébastien Baer, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Sébastien, c'est cet assouplissement des règles budgétaires qui est discuté en ce moment au Bundestag.
Et oui, comment financer ce bazooka, la relance de l'économie, la modernisation des infrastructures et surtout le réarmement de l'Allemagne? C'était l'ordre du jour de cette 213e séance du Bundestag. Friedrich Merz souhaite créer un fonds spécial de 500 milliards d'euros et réformer, en partie tout du moins, la fameuse règle du frein à l'endettement. Vous savez, cette règle qui empêche l'État d'emprunter plus de 0,35% de son PIB chaque année. Tout à l'heure, à la tribune, le chef des conservateurs a exhorté les députés à voter pour le texte.
L'Allemagne doit être en mesure de se défendre et doit revenir sur la scène internationale en tant que partenaire capable d'agir en Europe, au sein de l'OTAN et dans le monde. Tout retard supplémentaire serait irresponsable. Le monde entier a les yeux tournés vers l'Allemagne en ce moment.
Le plan du futur gouvernement prévoit 100 milliards d'euros de dépenses militaires par an, deux fois plus qu'aujourd'hui. Friedrich Merz pourra compter sur le soutien du Parti social-démocrate, son futur allié dans la coalition. Pour le chef des députés SPD, Lars Klingbeil, c'est une évidence. L'Allemagne doit renforcer sa défense.
Nous avons tous encore en tête les images de la visite du président Zelensky à la Maison-Blanche et l'annonce du président Trump de suspendre l'aide à l'Ukraine. Les provocations de la Russie envers l'OTAN se multiplient, tout comme les menaces à peine voilées contre les pays baltes et d'autres États européens. La situation internationale s'est dramatiquement aggravée ces dernières semaines. Nous devons être prêts.
Pour faire adopter son projet, Friedrich Merz a besoin de la majorité des deux tiers au Bundestag, majorité qui semble pour l'heure difficile à atteindre car les Verts menacent de mettre leur veto. Le vote aura lieu mardi prochain.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Donald Trump n'en finit plus d'alimenter la guerre commerciale qu'il a lancée contre ses partenaires occidentaux. Dernier épisode aujourd'hui, le président américain menace de taxer à 200% le champagne français et l'ensemble des vins et alcools européens. Une réponse à la riposte européenne aux nouvelles barrières douanières américaines sur l'acier et l'aluminium, un cycle infernal dont on ne voit pas le bout, car le locataire de la Maison Blanche ne donne aucun signe d'apaisement, Camille Magnard.
La stratégie reste toujours la même pour Donald Trump, la surenchère toujours plus loin dans la menace pour tordre le bras à ses interlocuteurs. En l'occurrence, cette menace de droits de douane complètement prohibitif, 200% sur les spiritueux venus d'Europe, c'est une réponse aux mesures de rétorsion qui avaient été annoncées hier par Bruxelles, dont des taxes de 50% sur le bourbon américain dans les rayons européens. Pas touche au bourbon, répond donc aujourd'hui Donald Trump, ou alors c'est le champagne, autre symbole national qui en fera les frais. Voilà donc comment se livre une guerre commerciale à l'ère Trump. Les Européens, comme les Canadiens mardi, semblent avoir décidé de ne pas se laisser impressionner, de jouer le jeu de la surenchère. Mais à ce jeu-là, le président américain veut montrer qu'il est le plus fort avec cette menace donc de 200%. Qui dit mieux ? Eh bien justement, on attend désormais la riposte européenne car la France le dit, elle ne cédera pas aux menaces et protégera ses filières. Et l'on sait que celle du champagne et des alcools est particulièrement stratégique dans la balance commerciale de notre pays. Difficile donc d'imaginer qu'il n'y ait pas un accord de compromis trouvé à terme, mais en attendant les négociations commerciales pourraient continuer sur ce ton-là jusqu'à la date butoir du 2 avril, jour où doivent entrer en vigueur les droits de douane réciproques promis par Donald Trump.
Camille Magnard, envoyée spéciale de France Culture aux États-Unis. En France, la filière visée par Trump exprime ce soir sa stupéfaction et sa consternation. À 200% de droits de douane, le business s'arrête, affirme Nicolas Ozanam, délégué général de la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux, car cela revient à tripler le prix de la bouteille vendue aux États-Unis, explique-t-il. Cette guerre commerciale menée par les États-Unis nous ferait presque oublier l'autre puissance économique mondiale, la Chine. Et pourtant, les pratiques chinoises menacent elles aussi l'Europe, surtout si elles sont illégales. Illustration aujourd'hui avec cette nouvelle affaire de corruption au Parlement européen. Après le Qatargate qui avait éclaté fin 2022, c'est maintenant le géant chinois Huawei qui est soupçonné de corruption à Bruxelles. Les enquêteurs belges qui enquêtent depuis plusieurs mois sur cette affaire sont passés à l'action ce matin dans l'enceinte du Parlement, Fabien Cazot.
C'est un fait rarissime, des policiers sont entrés ce matin dans l'enceinte du Parlement européen. Ils y ont déposé des scellés sur les portes des bureaux de deux assistants parlementaires qui sont soupçonnés d'avoir été les rouages d'un vaste système de corruption au profit de Huawei. Le siège bruxellois du géant chinois des télécoms a également reçu la visite des enquêteurs belges ce matin. Un suspect a par ailleurs été arrêté en France. Selon le groupement d'investigation journalistique Follow the Money, lui et d'autres personnes recherchées en Belgique et ailleurs aurait tenté de corrompre une quinzaine d'eurodéputés. Huawei a été très présent ces dernières années dans les couloirs du Parlement européen pour faire valoir ses intérêts dans les débats sur le déploiement de la 5G en Europe. L'entreprise a-t-elle franchi la frontière entre lobbying tout à fait autorisé à Bruxelles et corruption, par exemple en distribuant des cadeaux personnels et non déclarés à certains parlementaires pour acheter leur vote ? C'est ce que l'enquête cherchera à déterminer avec l'appui du Parlement européen.
Fabien Cazot, correspondant de France Culture à Bruxelles. C'est la première fois qu'il s'exprimait publiquement sur le scandale de Notre-Dame de Bétharram. L'évêque de Bayonne, Marc Hayé, a exprimé sa honte ce matin face aux multiples accusations de violences sexuelles dans cet établissement catholique réputé. D'autres établissements de son diocèse sont aussi visés par ces accusations. Une conférence de presse perturbée par l'intervention d'un militant des droits de l'enfant. Le récit de Paul Nicolaï.
Voilà, bonjour à tous.
Alors que l'évêque de Bayonne, Marc Hayé, commence à évoquer la solidarité de l'Église avec les victimes, dont il a appris l'existence par la presse, Arnaud Gallet, gants blancs au bout du bras, dénonce l'attitude de l'Église à Bétharram et ailleurs.
Et bienvenue donc pour cette...
Soutien aux victimes ! Que justice se fasse pour les victimes ! C'est scandaleux ! Et nous ne lâcherons pas ! Nous rentrerons partout ! Vous avez du sang sur les mains !
Le militant des droits de l'enfant, qui n'a pas de lien avec Bétharram, a souligné la cécité de l'Église dans ses affaires de violence sexuelle, ce que reconnaît le père Laurent Bachot, l'un des responsables de la congrégation béarnaise.
Nous avons été aveuglés. Nous en avons honte qu'on n'ait pas eu un discernement autre. Évident que nous avons fauté, ça c'est évident.
Mea culpa du diocèse, mais pas que, estime l'évêque Marc Hayé.
On peut dire qu'en effet, il y a une responsabilité systémique. Systémique, ça veut dire que, dans la mesure de la masse des actes qui ont été perpétrés, et la manière dont ça a été traité avec le silence, parce qu'on ne voulait pas souiller l'image, blesser l'image de l'institution, eh bien, on peut dire que ça a fait former un système comme un cancer dans un organisme.
L'évêque de Bayonne qui a également pointé du doigt l'omerta dans l'Église sur ces questions.
Reportage Paul Nicolaï, ici Pays Basque. François Bayrou a passé aujourd'hui le cap des 3 mois à Matignon et selon toute vraisemblance, son bail devrait être plus long que celui de son prédécesseur Michel Barnier qui avait tenu 3 mois et 8 jours avant d'être renversé. Mais rien n'est gagné pour le Premier ministre, la preuve avec ce courrier signé par plus de 160 sénateurs, soit près de la moitié des élus de la Chambre haute, une lettre qui appelle François Bayrou à revoir la feuille de route énergétique que le gouvernement veut publier le mois prochain. Ce texte, attendu depuis plusieurs années par les acteurs du secteur, doit fixer les objectifs en matière de production et de consommation d'énergie pour les 10 prochaines années. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Les parlementaires du Sénat dénoncent notamment une absence de vision globale sur cette feuille de route, mais surtout, Jeanne, un problème de méthode.
Oui, et disons-le clairement, un déni démocratique. Ce qui inquiète les signataires, explique le sénateur Union Centriste Vincent Delahaye, c'est que le gouvernement a choisi de faire adopter cette feuille de route par décret.
C'est contraire à ce qui doit se passer dans une démocratie. C'est-à-dire que sur des sujets majeurs comme l'énergie, c'est forcément la représentation nationale qui doit se prononcer sur ces éléments. Nous, notre souhait, c'est que ce sujet majeur soit présenté à l'Assemblée et au Sénat et qu'on puisse dégager une position majoritaire sur une programmation pour les 10 prochaines années.
Pourtant, à l'automne dernier, les sénateurs avaient adopté une proposition de loi sur la programmation nationale de l'énergie, proposition ignorée, selon le sénateur, dans la copie finale du gouvernement. Il dénonce enfin une méthode en contradiction avec la loi énergie-climat qui prévoit que les orientations stratégiques énergétiques soient tranchées dans une loi quinquennale. Mais le contexte parlementaire et l'absence de majorité ont eu raison de cette méthode, observe le professeur en économie à l'Université Paris-Dauphine, Patrice Geoffron.
Comme sur beaucoup de textes pour lesquels il s'est avéré qu'il n'y avait non seulement pas de consensus, mais des visions du monde extrêmement éloignées, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est le cas également en matière énergétique. Il y a notamment des tensions autour du déploiement des renouvelables, également des ambitions en matière nucléaire. On voit bien qu'on est sous contraintes financières dans lesquelles on a du mal à établir clairement nos priorités.
De son côté, le ministère de l'Industrie et de l'Énergie avance un texte conciliant, issu de nombreuses concertations auprès d'experts et d'instances, l'autorité environnementale, le Conseil supérieur de l'énergie, entre autres. Pas suffisant, selon les sénateurs, qui pointent également dans leurs lettres des chiffrages incohérents et l'absence d'études d'impact convaincantes.
Jeanne Serrin, merci pour ces explications. Boris Vallaud sera bien candidat à la tête du Parti socialiste. Le patron des députés PS l'a confirmé officiellement ce matin. Il affrontera notamment la l'actuel premier secrétaire, Olivier Faure, candidat à sa réélection au congrès prévu en juin. Autre candidat, le maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol. La DGCCRF, autrement dit la répression des fraudes, a effectué l'an dernier plus de 91 000 contrôles, soit moins de 250 par jour, chiffre en baisse. Contrôles qui ont abouti à près de 93 millions d'euros d'amende. Il s'agit essentiellement d'infractions à la concurrence. S'agissant des nouvelles pratiques commerciales en ligne, la répression des fraudes a aussi contrôlé 260 influenceurs en 2024. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Stanislas.
Et sur ces 260 influenceurs, suivis par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, plus d'une centaine ont été sanctionnés, Annabelle.
Oui, près de la moitié, c'est beaucoup, me direz-vous Stanislas. Certes, la DGCCRF a sa propre cellule numérique et inspecteur dédié à la traque des fraudeurs sur Internet, mais c'est surtout qu'ils interviennent essentiellement sur la base de signalements d'internautes. Difficile donc de manquer sa cible, d'autant que de nombreux influenceurs ignorent tout simplement qu'il existe des lois et des réglementations, nous explique Sarah Lacoche, la directrice générale de la DGCCRF.
On va aller regarder régulièrement les stories, les capter, etc. On peut regarder par rapport à des thématiques, des mots-clés. Donc voilà, c'est tout un travail, je dirais, d'approche, de ciblage, de s'appuyer sur le renseignement pour voir quels influenceurs on va regarder et ensuite de voir voilà, sur quel sujet on va aller creuser les investigations. Et effectivement, après, en général, il y a des phases d'audition, d'échange pour comprendre est-ce que c'était intentionnel. Il y en a certains qui ne maîtrisent pas la réglementation. Hein. C'est, pour eux, c'est, même si on en a beaucoup parlé, c'est pas évident. Donc il faut continuer à leur expliquer aussi.
Alors la profession est en train de se structurer, assure la directrice. La DGCCRF a même élaboré un guide de bonnes pratiques à l'usage des influenceurs. Pour les récalcitrants ou les infractions graves, eh bien la DGCCRF publie leur nom sur son site. Mais pour les jeunes qui n'ont pas souvent l'idée d'aller vérifier avant de se faire gruger, elle pratique une forme de name and shame.
Sur certains influenceurs, c'est là où effectivement il y a eu de la publicité. Et pour certains, on leur demande de mettre un message sur leur réseau. Nous, on communique sur notre site, mais effectivement, vous avez raison, les gens viennent pas forcément voir notre site. Donc le mieux, c'est encore que l'influenceur lui-même, on lui dit, mettez un message sur votre site pour indiquer que vous avez été sanctionné par la DGCCRF. Et là, ce qui est nouveau, effectivement, c'est d'avoir demandé à un influenceur de faire une vidéo pour expliquer qu'il avait fait une pratique qui n'était pas du tout respectueuse de la réglementation et d'avertir en fait sa communauté.
Sa communauté. 8 millions de followers tout de même. L'influenceur en question, dénommé Julien Tanti, condamné il y a quelques jours pour avoir fait la promotion des services financiers de copy trading et d'investissement dans l'or de nature trompeuse. Cet influenceur est basé à Dubaï et la DGCCRF en profite pour rappeler que pour les influenceurs, même vivant à l'étranger, c'est le droit français qui s'applique s'ils ciblent les consommateurs français.
Merci Annabelle Grelier. Le dossier de ce journal est consacré ce soir au traitement médiatique des banlieues, 20 ans après les émeutes urbaines de 2005. Ce traitement médiatique a-t-il évolué? C'est la question posée aux assises du journalisme qui se tiennent jusqu'à demain à Tours. Un constat s'impose, Fiona Mogadam, les quartiers prioritaires n'ont pas meilleure presse aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Entre 2018 et 2023, les habitants des quartiers populaires n'ont été représentés qu'à hauteur de 5% en moyenne à la télévision. Et lorsqu'ils l'ont été, les personnes sans emploi totalisent 48% d'entre eux. C'est ce que révélait une étude de l'ARCOM publiée l'an dernier sur la diversité dans les médias. Un traitement qui est donc toujours très stéréotypé et qui est même pire qu'il y a 20 ans lors des révoltes urbaines de 2005 pour Erwan Ruti, responsable associatif spécialiste des banlieues où il a dirigé plusieurs médias.
À l'époque, en 2005, il y avait eu cette tragédie nationale qui s'était transformée en grand moment de réflexion sur l'évolution de la société française et l'évolution des banlieues au sein de cette société. Mais aujourd'hui, et surtout après les autres émeutes de 2023 qui ont, une cause similaire mais des conséquences très différentes. 20 ans après, on peut dire qu'avec la nouvelle hégémonie de l'extrême droite, qui se fait sentir, y compris sur des médias qui ne sont pas d'extrême droite, fatalement, la vision des banlieues, c'est durci au désavantage de ces banlieues contre ces banlieues.
Avec des quartiers qui ne sont donc bien souvent évoqués que lorsqu'il s'y passe des événements d'ampleur, pourtant les sujets ne manquent pas, explique Elena Berkaoui, rédactrice en chef du Bondi Blog.
Il y a des surfocalisations sur des thématiques que nous, on n'ignore pas. c'est-à-dire le trafic de drogue. On a beaucoup parlé des RICS aussi récemment, mais il y a aussi énormément d'autres sujets. Enfin, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France métropolitaine. Donc vous imaginez bien que sur des sujets comme le logement, l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à une alimentation saine et durable, ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, qu'on couvre, donnent pas lieu finalement à des difficultés parce que les gens en fait ont besoin d'en parler, ont envie d'en parler et se sentent pas entendus sur ces sujets-là. Parce qu'il y a une surfocalisation sur certains sujets, mais sur d'autres sujets, pour le coup, c'est un peu le néant.
Malgré certains efforts des rédactions pour diversifier leurs effectifs, il sera difficile de faire évoluer le traitement médiatique des banlieues sans réelle volonté des patrons de presse, bien loin de ces réalités. Erwan Ruti.
Il n'y a pas d'analyse globale portée de manière, je dirais, organisée, systémique, par des gens issus des quartiers pour essayer de faire évoluer le regard avec une vision alternative de la réalité, qui est une vision qui témoignerait des bouleversements qui ont lieu dans ces quartiers.
Lui a toujours prôné un traitement des quartiers comme celui qu'avait Jean-Pierre Pernaut avec les campagnes dans le 13h de TF1. La même bienveillance et sympathie à l'égard des banlieues.
Dossier signé Fiona Mogadam. Un mot de la météo. Demain matin, elle sera pluvieuse et neigeuse en montagne sur de nombreuses régions. Un temps plus sec que du sud-ouest au nord-est. Les températures minimales seront fraîches avec de faibles gelées au nord. L'après-midi, il fera de 5 à 12 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Marie-Claire Oumabadi.